Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 6, Pierre de Ronsard et la musique.
Tels vers sont merveilleusement propres pour la musique, la lyre et autres instruments. Et pour ceux, quand tu les appelleras lyriques, tu ne leur feras point de tort, tantôt les allongeant, tantôt les accourcissant. Et après, un grand vers, un petit, ou deux petits, au choix de ton oreille, gardant toujours le plus que tu pourras, une bonne cadence de vers propres, comme je t'ai dit auparavant, pour la musique, la lyre et autres instruments. Tu en pourras tirer les exemples en mille lieux de nos poètes français. Je te veux aussi bien avertir de hautement prononcer tes vers, quand tu les feras, ou plutôt les chanter, quelque voix que tu puisses avoir, car cela est bien une des principales parties que tu dois le plus curieusement observer.
Ce texte de Ronsard que vous venez d'entendre nous montre toute l'attention qu'il prête à la musique de langue. C'est une évidence bien sûr pour un poète, mais on sent que Ronsard est particulièrement attentif à la mise en musique de ses poèmes.
Oui, c'est un texte qui est issu de l'abrégé d'art poétique français, qui est publié en 1565 par Ronsard. Et en effet, c'est une originalité de Ronsard que d'avoir réfléchi sans cesse à la manière dont ces vers pourraient ensuite être mis en musique ou même chantés. Dès la publication d'ailleurs des Amours en 1553, Ronsard va accompagner ces vers d'un supplément musical et c'est vraiment une stratégie éditoriale de sa part. Pour parler de ce rapport particulier de Ronsard à la musique, j'ai pensé que Denis Rézindadre, qui est le directeur artistique de Douce Mémoire, qui est un ensemble de musique renaissance, et Denis qui est là est donc féru de musique renaissance, j'ai pensé qu'il pourrait nous éclairer. Nous pourrions peut-être commencer par écouter un poème qui, je crois, a connu de nombreuses mises en musique, qui est la Complainte de la Tourterelle.
Alors, la Complainte de la Tourterelle, qui est un poème finalement assez court, a retenu de façon tout à fait étonnante beaucoup de compositeurs, tout simplement parce que c'était un dialogue, je crois. Et nous avons des très grands compositeurs, dont Lassus, Roland de Lassus, évidemment, qui ont écrit des doubles chœurs, à savoir un chœur de 4 voix pour Ronsard et un chœur de 4 voix pour la Tourterelle. Et ont mis en valeur, évidemment, cette opposition entre la voix aiguë et légèrement dolente de la Tourterelle et la voix grave et questionnante de Ronsard. Donc là, vous allez entendre par 2 étudiants qui vont vous faire ce dialogue dans lequel Ronsard s'émeut complètement de la fidélité de la Tourterelle à l'amour, alors que, bien sûr, à la cour, il voit plutôt les amoureux se séparer rapidement.
Que dis-tu ? Que fais-tu, pensive tourterelle, dessus cet arbre sec ?
Hélas, je me lamente.
Et pourquoi ? Dis-le-moi.
De ma compagne absente, plus chère que ma vie.
En quelle part est-elle ?
Un cruel oiseleur. Par glueuse cautèle, la prise et la tuée. Et nuit et jour, je chante son trépas dans ses bouets, nommant la mort méchante, qu'elle ne m'a tuée avec ma fidèle.
Voudrais-tu bien mourir avec ta compagne ?
Oui, car aussi bien je languis de douleur. Et toujours le regret de sa mort m'accompagne.
Oh, gentils oiselets, que vous êtes heureuse d'aimer si constamment. Qu'heureuse est votre cœur qui, sans point varier, est toujours amoureuse.
La manière dont Ronsard prête attention à la musique de ses vers, Denis Rézindadre, est-ce une originalité ou bien finalement est-ce assez typique dans le paysage de la Renaissance ?
Oui, alors Ronsard, en effet, fait sans arrêt appel à la musique, et ses vers même sont écrits pour être chantés. C'est une déclaration totalement radicale et novatrice qui est issue de son abrégé de l'art poétique français, dans lequel il dit « La poésie sans les instruments, ou sans la grâce d'une seule ou plusieurs voix, n'est nullement agréable, non plus que les instruments sans être animés de la mélodie d'une plaisante voix. » Il va encore plus loin parce que dans le recueil d'Ode de 1550, il rêve d'entendre ses vers chantés ou déclamés au son d'une lyre, laquelle seule doit et peut animer les vers et leur donner leur juste poids de leur gravité. Alors cette conviction de la nécessité de l'union de la poésie et de la musique, qui vient évidemment de l'imitation des anciens, de l'Antiquité, je dirais, s'accompagne aussi d'une conscience aiguë, peut-être de l'intérêt publicitaire, en fait, de diffuser sa musique, sa poésie, pardon, par l'intermédiaire de l'édition musicale. Car il est une évidence que toute sa poésie, tellement mise en musique, a atteint des publics qui étaient un autre public que les personnes qui pouvaient écouter sa poésie. Donc vraiment, Ronsard, c'est au XVIe siècle, le poète qui non seulement fait appel aux musiciens, mais qui en plus est le poète le plus mis en musique.
Si Ronsard est mis en musique aussi abondamment, j'imagine que c'est aussi parce qu'il a suscité ses mises en musique. Hein, je pense au supplément musical de 1553 que nous avons évoqué au début de cet épisode et qui accompagne la publication des Amours et de la suite des Odes. En quoi ce supplément musical est-il vraiment un événement ?
Alors en 1553, en effet, Ronsard publie Les Amours avec un supplément musical qui permet de chanter des sonnets, des odes et autres à quatre voix sur des mélodies de compositeurs comme Clément Jeannequin, qui est bien connu, Certon, Goudimel ou Muret. Alors déjà, le plus étonnant, c'est que c'est un tour de force cette publication, parce que publier à la fois de la musique et des textes demande évidemment techniquement un grand savoir-faire. Donc on connaît peu au XVIe siècle d'ouvrages qui réunissent musique et poésie. Mais ce qui est très étonnant pour nous, c'est qu'à un moment où on cherche à avoir le plus grand rapport entre la parole, la poésie et la musique, Ronsard s'engage dans une voie qui peut être un peu étonnante pour nous aujourd'hui. C'est qu'il décide par exemple que sur une seule musique, on puisse chanter 90 mêmes sonnets. C'est le cas de « Qui voudra voir », le poème liminaire des Amours, sur lequel on peut chanter 90 sonnets qui ont la même structure de rimes masculines et féminines. Et en cela, il se rattache plutôt à une tradition ancienne, qui est la tradition du XVe siècle en Italie, dans laquelle on trouvait en effet déjà des morceaux de musique sur lesquels il y avait marqué « per sonetti », qui étaient des morceaux de musique sans paroles, mais qui voulaient dire « prenez ce morceau de musique et avec ça, vous pouvez quasiment déclamer tout Pétrarque ». Donc en fait, c'est à la fois novateur, parce que c'est évidemment c'est un coup éditorial incroyable, en 1553, de publier Les Amours avec ce supplément musical, et en même temps, il a un regard un peu vers le passé, vers le XVe siècle. C'est évidemment le grand événement, je pense que ça a été un coup de publicité fantastique pour lui.
Et en dehors de ce supplément musical de 1553, Denis Rézindadre, comment cet appel du poète a-t-il été entendu par les musiciens et les compositeurs ?
Alors cet appel aux musiciens est si largement entendu que Ronsard va s'imposer vraiment comme le poète favori des compositeurs contemporains. Il faut bien entendre qu'il y a près de 350 pièces, surtout des sonnets d'ailleurs, des odes, des chansons, et la plupart sont issues des recueils de 1550-1556. Elles sont mises en musique par plus de 40 compositeurs. Alors, on a des tubes déjà, à l'époque, hein, bien sûr. Il y a évidemment Mignonne, Allons voir si la rose, qui deviennent quasiment des standards. Mais en fait, on a des tas de sonnets et autres odes qui ont été mis en musique par des compositeurs à la fois français, mais aussi par des compositeurs plutôt du nord de l'Europe. Et alors, ce qui est vraiment très frappant et très novateur, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la musique que le nom du poète figure au titre de plusieurs recueils musicaux et vraiment au début. Donc on a, je vais vous en citer par exemple Pierre Clairaut, premier livre d'ode de Ronsard, Nicolas de la Grotte, chanson de Pierre de Ronsard, Philippe de Monde, sonnet de Pierre de Ronsard, Jean de Castrot, chanson, ode et sonnet de Pierre de Ronsard. Et je pourrais parler aussi de Fabrice Marin-Caëtin, air sur les poésies de Pierre de Ronsard. En fait, Ronsard, ça vend.
Et en dehors de ces recueils de musique polyphonique savante, existe-t-il des mises en musique de Ronsard qui sont accessibles à un public plus populaire ?
Alors là, c'est vraiment une excellente question parce que tout d'un coup paraît, en 1575, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est le recueil de Chat d'Avoine. Alors, Char d'Avoine édite le recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de vaudeville, tirées de divers auteurs et poètes français, tant anciens que modernes, auxquels a été adaptée la musique de leur chant commun, afin que chacun les puisse chanter en tout endroit qu'il se trouvera, tant de voix que d'instruments. Je vous ai lu tout le titre parce qu'il est vraiment intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est « afin que chacun les puisse chanter ». C'est-à-dire que ce sont que des monodies, c'est-à-dire comme des chansons à voix seule, sans accompagnement, sans la complexité évidemment de la polyphonie, et que ce recueil de monodies s'adresse à tout à chacun, c'est-à-dire aussi bien à l'homme du peuple que du bourgeois, que l'homme de cour qui a envie de fredonner un air. Et ces airs sont, pour un certain nombre, tout simplement les dessus des chansons polyphoniques. Et ça aussi, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment ce mouvement qui, à partir de la moitié du XVIe, va nous conduire peu à peu vers l'air de cour, c'est-à-dire la suprématie du dessus. Vous savez que la musique du XVIe est une musique polyphonique, mais là, on va mettre en valeur le dessus, on va choisir des dessus facilement chantables, et tout le monde pourra les chanter. Et ce recueil est aussi intéressant, parce que les musiques sont simples, mais les poèmes sont compliqués parce qu'ils font appel aux meilleurs. Il y a quand même beaucoup de poètes qui sont du Ronsard, bien sûr. Il y a aussi du Marot, il y a du Dubélet. Et ça me fait un peu penser à ce qui se passe en Iran, où tout un chacun peut chanter aussi des grands poètes iraniens parce que tout le monde peut les faire du chauffeur de taxi au médecin.
Je vous propose maintenant d'entendre le fameux « Bonjour mon cœur » qui a été un autre grand succès de Ronsard, n'est-ce pas ?
Bonjour mon cœur. Alors Bonjour mon cœur, ça a été aussi un grand succès, à tel point qu'au XIXe siècle, on a fait un faux. Tout le monde pense chanter Bonjour mon cœur de la Suce, et je le redis, j'ai déjà dit à France Musique plusieurs fois, le Bonjour mon cœur à quatre voix de la Suce est un faux du XIXe, mais qui est très joli par ailleurs, hein, et tout à fait permis de le chanter, mais c'est un faux. Mais ce poème est beaucoup de succès, je crois, par sa simplicité. Il est très touchant parce que je crois qu'un jeune homme amoureux pourrait le dire à sa bien-aimée le matin en se réveillant. Il a quelque chose d'incroyablement contemporain. En général, les compositeurs ont mis en musique la première strophe et un peu en oubliant la seconde. Je ne sais pas trop pourquoi, sans doute parce qu'elle est assez différente de la première. Toujours est-il que là, vous allez l'entendre avec les deux strophes dites par un jeune étudiant qui, je trouve, a tout à fait trouvé le ton de la fragilité d'un jeune homme amoureux.
Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie, et bonjour ma toute belle, ma mignardise, bonjour mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle, bonjour, ma douce rebelle. Faudra-t-il que quelqu'un me reproche que j'ai vers toi le cœur plus dur que roche de t'avoir laissé maîtresse pour aller suivre le rouet mendiant je ne sais quoi que le vulgaire appelle une largesse. Plutôt périsse honneur, cour et richesse, que pour les biens, jamais je te relaisse, ma douce et belle déesse.
Quand on évoque la musique, on pense forcément à cette référence fréquente que fait Ronsard à la lyre dans ses poèmes. Elle constitue à la fois une référence à l'Antiquité sous sa plume, mais il me semble qu'elle peut-être s'entendre aussi comme un écho à une réalité contemporaine.
Justement, c'est vraiment une réalité. Mettons, on le sait, on a beaucoup de témoignages. D'abord, Ronsard fréquentait et collaborait énormément avec des joueurs de lyre à la cour de France, surtout la cour d'Henri II, Gérard de Beaulieu et Joachim Thibaud de Courville. Ces deux joueurs de lyre sont cités par le compositeur Caetin, qui en fait était un Italien, il s'appelle Caetano. Il dit « Ce sont l'un Orphée et l'autre Arion de France ». Quelle référence ? Référence à l'Antiquité. Ces deux joueurs de lyre étaient totalement présents à la cour. On sait combien ils étaient payés, on sait très bien quels étaient leurs emplois, parce qu'il y a des musicologues qui ont fait des grandes recherches justement dans les archives. Et ils étaient en particulier très employés pendant les fêtes. Et on sait que Ronsard a énormément collaboré aux fêtes de cour. Donc cet appel à la lyre, c'est tout à fait quelque chose de vraiment contemporain. Alors il faut savoir d'où vient cette lyre quand même. Cette lyre, c'est la lira da braccio italienne. C'est un instrument qui a été inventé au XVe siècle pour imiter en fait la lyre d'Apollon et la lyre d'Orphée. Donc c'est une invention qui vient, je dirais, presque plus des poètes que des musiciens. Avec cet instrument, vous pouviez déclamer de la poésie en vous accompagnant. Et le meilleur joueur de lyre au XVe siècle, c'était Léonard de Vinci, qui était un des plus grands joueurs de lyre. Et cette lyre est amenée ensuite par les Médicis en France, et on a deux joueurs de lyre à la cour d'Henri II, ce qui veut dire que la poésie était proférée, en Italie on dit recitare alla lira, elle était récitée à la lyre, et elle avait une emphase extraordinaire, parce que la lyre est un instrument assez puissant, et que la lyre provoque une sorte d'état second, qu'on est accompagné par cet instrument, qui fait que la poésie a une ampleur extraordinaire. Donc cette référence de Ronsard, c'est pas du tout à l'Antiquité. Enfin, c'est à la fois à l'Antiquité, parce qu'évidemment, il fait référence à la lyre d'Orphée, mais c'est une réalité contemporaine.
Et qu'en est-il, de la même manière, des nombreuses références que Ronsard fait aux luths ?
En fait, au XVIe siècle, le luth, il a la place du piano au XIXe siècle. Ça, je crois que tout le monde peut le comprendre aujourd'hui. Le piano au XIXe, tout le monde joue du piano. Mais pourquoi ? Parce que le piano permet de jouer tout. On peut réduire les symphonies de Beethoven en jouant à quatre mains. On peut accompagner des chanteurs. On peut prendre des mélodies françaises sans chanteur et les réduire au piano. Le piano est un instrument à tout faire. D'où son énorme succès au XIXe siècle. Le luth, c'est la même chose. Avec le luth, vous faites quoi ? Vous accompagnez des chanteurs, vous réduisez des messes, vous pouvez jouer des messes en polyphonie au luth, ce qui était le cas du joueur de luth de François Ier, Albert de Rippe. Vous étiez capable de jouer évidemment des danses et vous étiez capable, bien sûr, d'accompagner aussi les poètes. Donc, on a très souvent ce rapport luth, lyre, poésie. Parce que vous pouviez réciter à la lyre, mais vous pouviez aussi être accompagné par le luth. C'est vraiment un instrument totalement central. Et je dirais presque, comme on parle de guitare sommaire au XXe siècle, que les courtisans pouvaient jouer du luth sommaire, car avec seulement quelques accords, ils pouvaient jouer quelques chansons, puisqu'il y a un certain nombre de poésies de Ronsard qui s'appellent des chansons. Donc tout le monde jouait du luth à la cour, en fait.
Si vous le voulez bien, je vous propose maintenant d'écouter trois versions successives d'un même poème. Un poème superbe intitulé « Je suis tellement amoureux ». C'est un poème qui a retenu l'attention d'un certain nombre de compositeurs, probablement pour sa charge émotive. En ce qui me concerne, je le trouve personnellement très très contemporain. Alors, je vous propose de l'entendre dans une version prononcée de manière moderne, avec le français d'aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez comprendre parfaitement ce qui se dit.
« Je suis tellement amoureux qu'au vrai, raconter, je ne puis ni où je suis, ni qui je suis, ni combien je suis malheureux. J'ai pour mon hôte nuit et jour, comme un tigre, un cruel émoi, lequel pratique dessus moi toutes les cruautés d'amour. Et si mon cœur ne peut s'armer contre l'œil qui le navre à tort, car plus il me donne la mort, plus je suis contraint de l'aimer. »
Maintenant, ce même poème, mais avec la prononciation historique restituée, et en plus avec l'accompagnement du luth. L'accompagnement du luth étant improvisé, ce qui était aussi bien sûr la tradition. Alors évidemment, vous en jugerez, je vous laisse en juger, mais cette présence de la musique induit évidemment un niveau de sentiment, d'émotivité, d'implication du récitant en quelque sorte plus grand, qui explique comment on aimait réciter justement la poésie au XVIe siècle.
Je suis tellement amoureuse qu'au vrai raconter je ne puis, ni où je suis, ni qui je suis, ni combien je suis malheureuse. J'ai pour mon hôte nuit et jour, comme un tigre, un cruel et muet, lequel pratique dessus moi toutes les cruautés d'amour. Et si mon cœur ne peut s'armer contre l'œil qui le navre à tort, car plus il me donne la mort, plus je suis contraint de l'aimer.
Et maintenant une version qui est vraiment, vraiment, je pourrais dire, la version historique, qui est ce poème récité, recitare, récité à la lyre. Donc vous avez un instrumentiste qui improvise à cette fameuse lyre, qui dresse une sorte d'ambiance assez extraordinaire, parce que la lyre apporte toujours quelque chose d'assez étrange. Et là-dessus se place la voix du récitant, qui va dire ce texte en prononciation historique aussi. Ce que je vous invite à vraiment écouter avec attention, c'est qu'à la différence de tout ce que vous attendez d'habitude, la lyre n'accompagne pas en dessous de la voix, ce qui est le cas en général de l'accompagnement, qui est toujours en dessous de la personne qu'elle accompagne, mais au-dessus de la voix, ce qui est quelque chose qui nous perturbe, nous autres personnes du XXIe siècle, parce que c'est comme une sorte de nuage harmonique au-dessus de la voix, et en plus sans basse, ce qui est très étrange pour nous, puisque toute notre culture musicale veut qu'il y ait une basse et des accords. Là, c'est une sorte de nuage harmonique assez étonnant, mais qui crée une étrangeté, je trouve, et qui favorise de façon extraordinaire, je trouve, l'émotion contenue dans ce poème.
Je suis tellement amoureuse qu'au vrai raconter je ne puis, ni où je suis, ni qui je suis, ni combien je suis malheureuse. J'ai pour mon hôte nuit et jour, comme un tigre cruel et muet, lequel pratique de se mouer toutes les cruautés d'amour. Et si mon cœur ne peut s'armer contre l'œil qui le navre à tort, car plus il me donne la mort, plus je suis contraint de l'aimer.
Je ne résiste pas à l'envie de terminer cet épisode sur Ronsard et la musique et ainsi de conclure notre série de podcasts sur Ronsard avec le texte qui est probablement le poème le plus connu de notre auteur, « Mignonne, allons voir si la rose », et dont la simplicité, l'absence d'érudition a fait un succès absolu.
Pour ce qui est de « Mignonne, allons voir si la rose », évidemment le tube absolu, enseigné dans les écoles. Je pense qu'il a eu du succès déjà en raison du recueil de Char d'Avoine. Parce que quand vous faites une édition où tout le monde peut chanter ce Mignonne, évidemment, ça se diffuse partout. Je pense que ça a été un des vecteurs du succès de ce Mignonne. Alors, il a eu du succès au XVIe siècle, mais pas tant que ça, finalement. Son énorme succès, c'est fin XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Alors là, tout le monde s'est mis à mettre en musique Mignonne, allons voir si la rose, que vous allez entendre maintenant dans la version de Char d'Avoine, cette musique tellement simple mais tellement bien faite, et je pense qu'à la fin, vous pourrez la chantonner.
Mignonne, allons, voici la rose qui ce matin a voué d'éclose sa robe de pourpre au soleil. À point perdu, Mignonne est là-dessus la place, la place est beauté laissée jouer. Oh, vraiment marâtre nature, plus qu'une telle fleur ne dure que du matin jusque au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera vernir votre beauté.
Vous venez d'écouter le 6e épisode de la série Pierre de Ronsard et la Révolution humaniste. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Aubane Martin, Clara Rio, Victor Poulain-Aille
et
Antoine Marie.
Musique de l'ensemble baroque Douce Mémoire. Conception Caroline Garde-le-Breton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation Erwan Guillot.